Chapitre 23e. Tout était fini. Maître Job partit pour Chavernay, accompagnant la dépouille de Henri, qu'il fit inhumer dans le cimetière de la ville. Marthe avait regagné Mareuil. La Syrienne, seule, dans l'atelier désert, demeurait dans une prostration muette, horrible. Toute vie semblait avoir abandonné son petit corps. Elle demeurait tout le jour assise à terre, l'œil fixe, les cheveux dénoués et dans l'attitude abandonnée et éternellement douloureuse des madeleines peintes dans les églises de Flandre. La servante n'osait lui parler. Elle épiait son moindre réveil et évitait tout bruit comme si elle eût veillé une enfant malade. Le jour tombant d'en haut dans l'atelier silencieux lui donnait des allures de sépulcre. Sur des toiles inachevées, les silhouettes indécises des personnages ébauchés semblaient des spectres errants, des âmes en pleine peine, dont le peintre mort n'avait pu achever l'incarnation. Et toujours, au fond du petit temple, le Bouddha de bois doré grimaçait le même sourire mystérieux ou stupide. Sur un divan, parmi les costumes jetés en désordre, brillaient les paillettes de la robe de Salammbô. Un poème d'amour que cette robe constellait d'étoiles, tout un passé était demeuré dans ses plis. Maintenant ce passé, c'était une voix éteinte, un chant qu'on ne redirait plus. Et symbolisant cet état irrémédiable, la harpe abandonnée demeurait dans un coin, les cordes rompues, ne pouvant plus exhaler aucune harmonie, mais seulement, sous le heurt, une plainte de l'instrument déchu et que le génie de l'artiste ne viendra plus hanter. Peu de jours après la mort de Henri, un matin, la servante entra précipitamment, tout épeurée, la voix tremblante, disant que l'homme était là, celui qui avait fait mourir le maître et qu'il voulait parler à Souleyma. La Syrienne bondit subitement, tirée de son extase douloureuse. Déjà, derrière la servante, Gaston apparaissait sous la portière soulevée. Il s'avança d'un air profondément contrit et salua. La jeune femme le regardait d'un œil fauve où se peignaient à la fois la surprise et la colère. Que lui voulait-il? Elle pensa le faire jeter à la porte. Mais elle pressentit un moyen de se venger qui lui était inconnu et qui peut-être allait s'offrir. La curiosité l'emporta sur la haine. Elle le laissa s'asseoir. Il parla, elle l'écouta. Il commença par s'excuser, disant qu'elle avait sans doute conservé une mauvaise impression de sa dernière visite, mais qu'il venait la dissiper. Il aurait pu offrir ses condoléances pour le malheur qui l'avait frappé, mais il ne voulait pas réveiller des douleurs peut-être guéries. Le langage de Gaston était plein de compassion. Il observait l'effet de ses paroles sur le visage de la jeune femme qui restait impassible. Après un silence, il lui parla de son enfant, de sa situation pénible, et lui offrit son appui. Une femme jeune et belle ne pouvait rester sans soutien, sans affection. Il lui fallait un protecteur. Il n'acheva pas sa pensée. Un regard méprisant de Souleyma lui cloua les lèvres. Elle s'était levée, montrant la porte. « Je ne croyais pas, dit-elle, qu'un homme pût être à la fois aussi lâche et aussi insolent. Allez-vous-en, allez-vous-en » « C'est bien, répondit-il, vous réfléchirez mieux quand vous serez plus calme. « Vous me trouverez toujours quand vous aurez besoin de moi pour vous ou pour l'enfant de Henri. Je pars ce soir pour le midi. Voici mon adresse. » Il jeta sa carte sur la table et sortit. La Syrienne mordait ses lèvres de rage. Elle enfonçait ses petites mains dans sa chevelure. « Oh, Henri, mon Henri, il faut que je te venge. » Elle se jeta sur les coussins d'un divan et resta là, la face prosternée, les membres crispés, pleurant, mordant l'étoffe. En vain, la servante l'appela plusieurs fois. Souleyma ne répondait pas. Elle resta ainsi plusieurs heures, cherchant à arrêter une idée dans sa tête brûlante. Tout à coup, elle se redressa et bondit sur ses pieds. « Hamza ! Hamza ! » cria-t-elle. « Je sais maintenant, j'ai trouvé. »« Qu'as-tu, maîtresse ? J'aurai la vie de cet homme. Il est à moi, je le tuerai. » Elle saisit la carte de Gaston et lut « Bannière de Luchon, Grand Hôtel ».